Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 113e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour.
Est-ce que ça va bien cette semaine?
Ouais, bah tu as failli la réaliser tout seul cette semaine surtout. Mais oui, ça va, je jongle un peu avec le travail.
C'est les clients qui se réveillent à la dernière minute avant les fêtes, c'est ça?
Bah ouais, il y a des gens, tu vois, il y a des trucs, l'événementiel, ça a jamais été ma passion. Et c'est compliqué parce qu'il y a toujours un truc que t'oublies. Et aujourd'hui, on a failli oublier un truc super important pour un client. Donc, moi et mes deux neurones, on était super contents. Donc, voilà. Parce que la situation finalement n'est pas si grave. Mais voilà, donc une journée, une bonne petite journée. Donc, on finit. Normalement, on enregistre il y a une heure.
C'est ça.
Et donc là, on est vraiment à la bourre sur notre petit planning, mais ça va bien se passer. On a même trouvé le temps de vous mettre des petits trucs rigolos pour la semaine.
On a une bonne grosse conduite cette fois-ci, et comme on a fait la part belle à la culture ces deux, trois dernières semaines, on n'aura pas de culture cette semaine. On va parler gaming principalement et tech. Et on va commencer tout de suite avec des news de GOG, GOG Galaxy 2.0. Il y a une nouvelle update qui est sortie.
Ouais, vous savez que la nouvelle version était sortie déjà, mais en version bêta fermée, donc tout le monde n'avait pas accès. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est un open beta. En même temps, il y a une grosse update qui est sortie qui s'appelle Argus. J'avais pas fait gaffe, mais ils donnent des petits noms à toutes leurs grosses updates. Ouais, ils se font chier un petit peu. Et du coup, il y a plein de modifications. Vous trouverez tout expliqué dans le petit lien que je vous mets avec le billet qui accompagne le podcast. Les petits gars de chez Neowin ont fait le taf. Et puis bon, c'est pas complètement passionnant de vous expliquer toutes les petites modifs. Je voulais juste citer le truc qui était vraiment qu'on attendait un petit peu tous, qui est enfin le merge des listes d'amis qui sont dans cette version 2.0. En revanche, attention, on se calme tout de suite, cette liste d'amis, si elle est bien présente et si on voit effectivement à quoi jouent ses potes, comme quand on est sur les listes normales, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas trop mal sur Steam et le PSN par exemple. Oui, ça ne sert à rien d'avoir le PSN dans GOG, mais c'est vous pouvez garder un œil et espionner vos amis comme ça. vous pouvez aussi lier votre liste Xbox par exemple, ça n'a pas d'intérêt, mais vous voyez votre liste de jeux et GOG vous rappelle qu'il faut aller sur sa console pour jouer sur ces trucs-là. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut toujours pas chatter avec ces personnes. Donc, ça sert uniquement pour savoir ce qu'ils font et à essayer d'aller les débaucher si vous voulez partir en multi sur un jeu lambda. Mais pour le moment, l'intérêt est encore un petit peu limité. Mais bon, ça vient, ça avance et je suis hyper impressionné parce que bon, il y a plein de trucs. Je sais pas quel est le niveau de bricolage et quel est le niveau de c'était prévu dans Steam par exemple, tu vois, de récupérer la liste d'amis. Je sais pas du tout où ça en est. Je sais pas s'il y a des services où ils pourront pas du tout le faire. En tout cas, ils ont l'air ultra motivés et bien décidés à y arriver, donc tant mieux. Et j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, mais ça avance assez vite et c'est plutôt cool. Tu vois, je le fais d'entrée, tu vois, comme ça, le plutôt cool. Voilà, c'est
grillé là.
On l'a oublié la semaine dernière, donc là, on le met quoi, bam, direct.
Et puis il y a des promos aussi en ce moment sur GOG.
Exactement, c'est les promos d'hiver. Vous pensiez avoir survécu aux promos de Steam qui sont terminées. Bah non, eux ils s'y mettent maintenant. Il y a pas mal de choses, il y a des packs qui sont dispo et si vous vous réveillez que en écoutant ce podcast, je suis désolé pour vous parce que il y avait Westlands 2 qui était gratuit pendant 48 heures, mais le podcast sort juste après. Mais confuse. Mais voilà, ils ont prévu plein de cadeaux et plein de packs comme d'habitude avec des prix dérisoires. Alors oui, forcément, il y a des titres qui sont un petit peu anciens, mais vous savez que maintenant ils ont plein de nouveautés. Et franchement, allez voir les tarifs si vous vouliez faire vos emplettes foncées. Mais je vous rappelle que comme la dernière fois, vous avez toujours un backlog dégueulasse à écluser et que peut-être que cette année vous pouvez acheter peu de choses, voire pas du tout. Quelle horreur.
Et on va parler de gros robots qui se mettent des mandales.
Oui, si vous voulez acheter des nouveaux jeux, vous pouvez essayer ça. Pour ceux qui dépensent de l'argent, il y a MechWarrior 5 qui est sorti. Alors MechWarrior 5, on attend la suite de MechWarrior 4 depuis plus d'une décennie, je crois. J'ai plus la date exacte, mais c'est très très vieux. C'est l'ancien, il est vraiment très très ancien. Et du coup, on attendait beaucoup de ce MechWarrior 5. Alors MechWarrior, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gros robots qui se collent sur la tronche. Je vous rappelle que ce sont des gros robots réalistes, donc très lents, un peu comme des tanks. À côté de ces robots-là, même les robots de Titanfall, c'est des danseuses étoiles. donc, on est vraiment sur du lourdingue avec grosse inertie, gestion des munitions. Enfin, on est entre la simulation, c'est pas de la simulation à 100%, mais quand même, ça va assez loin dans le délire. On est très très loin du jeu d'arcade en tout cas. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous êtes moyennement chaud sur l'univers MechWarrior, c'est pas très joli. C'est voire carrément moche. C'est surtout pas. Alors, in-game, ça va, l'interface, etc. On a vu largement pire. Hein. C'est vraiment tout l'habillage qui est pourri. Le scénar est naze. Les persos qui te parlent, c'est horrible. Les acteurs, t'as l'impression qu'on leur a mis un flingue pour sortir leurs phrases. C'est vraiment pas bon, quoi. Tu sens que les mecs, soit ils avaient pas de budget, soit ils avaient pas le temps. Enfin, il s'est passé un truc. Donc, toute cette partie en robage est vraiment naze. Il faut arriver à en faire abstraction si vous voulez vraiment profiter du titre, et si c'est un voilà, MechWarrior c'est votre vie, vous voulez absolument y jouer, bah il faut être conscient que ce truc là ça va être moyennement motivant, voire carrément repoussant, donc je vous confirme que c'est vraiment que pour les fans. Enfin, je me vois pas proposer le titre et le faire découvrir à des gens qui connaissaient pas l'univers dans ces conditions, tu vois. Et puis derrière il y a des gens qui ont quand même bien poncé le jeu depuis qu'il est sorti, alors que ça fait pas très très longtemps, et qui s'aperçoivent que le grind est réel. On a une boucle de gameplay qui revient régulièrement, et du coup, faut soit vous aimez vraiment ces combats et vous aimez bien vous optimiser votre robot, son équipement, etc. Soit vous allez vraiment, vraiment déchanter, parce qu'il y a des moments où vous vous envoyez sur des missions, et là, d'un coup, si vous n'avez pas assez grindé, vous allez vous faire défoncer, vous allez vous dire, mais pourquoi? Donc, on appelle ça un peu, en RPG, on appelle ça des gear checks souvent. C'est vraiment, le jeu vérifie que vous avez bien fait vos devoirs et que vous êtes prêt à aller affronter la suite de l'aventure. Là, c'est pas vraiment pour aller faire avancer le scénar, c'est juste qu'il y a, on vous met des walls pour vous forcer à jouer, à retourner sur des missions, etc. Voilà, j'ai peur qu'à terme, même si on kiffe le gameplay combat, donc tout le reste, on a décidé, voilà, on a été clair, hein, c'est pas ouf. Mais même le gameplay combat, j'ai peur qu'à terme, ça soit quand même un petit peu redondant, un petit peu chiant. Donc voilà, je vous ai linké plusieurs papiers, un de Polygone et un de RPS. Il y a un test qui doit arriver sur Gamekult aussi bientôt, donc vous verrez par vous-même ce que ça vaut. Mais personnellement, je vais passer mon tour parce que je suis pas assez fan de boîtes de conserve. Je suis désolé.
MechWarrior 5, donc. Et puis, vous connaissez ma passion pour le flipper virtuel. On avait fait un dossier, enfin, je vous avais fait un dossier il y a 3 ans déjà.
Mais on peut pas mettre coup de genou dedans, enfin, ce que je ne comprends pas.
Mais si, en fait, tu peux faire du tilt, en fait. Tu peux pousser le flipper sur les côtés avec des touches spéciales.
T'inquiète, mais tu peux pas tout mettre faire. Des coups de genou dans ton bureau.
Bah, tu peux, si tu veux, si ça t'amuse, si tu veux te niquer le genou, t'es libre de le faire.
Non, j'ai plus de genou, tu sais bien, moi.
Bref, je voulais vous reparler de Pinball FX qui est à sa 3e édition depuis déjà quelques mois maintenant. Ils viennent de récupérer, il y a quelques mois aussi, les tables de Flipper Williams, qui étaient avant chez nos amis de Pinball Arcade, qui est un autre soft de Flipper virtuel. Et puis, Williams, qui a bien compris comment faire fructifier ses licences, hein, a décidé donc de supprimer les licences de Pinball Arcade et de les revendre aux gars de Pinball FX. Donc, on peut racheter maintenant les Flipper Williams dans Pinball FX 3. Et ils viennent de sortir donc un nouveau pack, le volume 5 déjà, avec 3 Flippers relativement connus, en fait, relativement légendaires, on va dire. Il y a Tales of the Arabian
relativement
Nights,
légendaire, hein. J'aime bien.
Oui, voilà. Donc Tales of the Arabian Nights, Circus Voltaire et No Good Gophers. Le pack coûte 8€ à peu près, donc il est dispo sur PC, PS4, Switch, Mac et Xbox One. Et donc voilà, je voulais en reparler parce que pour moi c'est un des meilleurs jeux de flipper virtuel sur PC. Alors les puristes vont vous dire que oui, mais bon, les tables machin, elles sont un petit peu bizarres, il y a des animations, des trucs pas réalistes. Alors oui, certes, mais avec les tables Williams, on a l'avantage de pouvoir jouer aux deux versions, c'est-à-dire une version qui est réaliste par rapport à la version physique du flipper, et puis on a une version qu'ils appellent remasterisée, en fait, avec des petites animes en plus, des petits trucs un peu spéciaux. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, et je voulais en profiter aussi pour vous rappeler donc notre communauté qui est toujours brillante et qui est toujours en train de faire des choses intéressantes, a lancé il y a pas très longtemps, via notre ami Draculs, un tournoi en fait de Pinball FX 3. Donc c'est un tournoi qui se déroule sur un certain nombre de jours et sur une table spécifique. Donc voilà, si
malade.
Ça vous intéresse, quoi,
bande de malades.
Donc voilà, si ça vous intéresse de venir participer, de venir faire des high scores, il y a du level quand même, hein. Je préfère vous prévenir.
Oui, c'est pour ça
il y a
que
des gens
pas.
Qui ont voilà. Moi j'ai arrêté aussi. Il y a des gens qui ont vraiment que ça à foutre et donc qui jouent
non,
tout
non,
le temps
pas.
Et qui
ils sont juste
les
bons.
Scores.
Ils sont juste bons parce qu'ils
sont juste bons, c'est vrai.
Non, c'est une horreur. Je veux dire, ces gens sont pénibles. Je vois les records qui se mettent, moi ça me fait peur. Je n'irai pas. Voilà, c'est tout. J'ai parlé.
Pinball FX 3, donc 3 nouvelles tables Williams, et je vous linkerai le papier que j'ai écrit sur le sujet cette semaine sur Geekzone. On va passer du FPS avec GTFO Get the Fuck Out, c'est ça?
Ah, meilleur titre de jeu.
Oui. Alors moi j'ai vu le jeu tout à l'heure, je suis moins convaincu par le gameplay en revanche.
Ah bah ils ont trouvé un bon titre et puis après après c'était plus compliqué quoi. J'avoue, tu vois les mecs sont dit il faut qu'on fasse un jeu, j'ai un titre génial. Non, je suis méchant. Donc GTFO qui vient de sortir en early access, pas du tout en version définitive, et je vous confirme qu'il reste un peu de travail côté early access. Oui. Pour ceux qui connaissent pas le concept, hein, c'est quand le jeu sort mais pas vraiment fini et que on aimerait bien que la communauté donne un peu des sous et accroche et s'éclate et fasse du feedback pour dire ce qu'il faut modifier. Et bah là, a priori, il va y avoir pas mal de trucs à modifier s'ils veulent que les gens restent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un shoot coop à base de zombies monstres. Bon, c'est pas trop. J'ai pas creusé plus que ça. A priori, on est des prisonniers. Il va falloir aller récupérer des trucs, des bidules dans des niveaux blindés de bestioles qui veulent vous flinguer. Et on est dans une ambiance absolument pas arcade, mais beaucoup plus stratégique. La moindre erreur, si vous bougez un sourcil au mauvais moment, votre équipe se fait raser la tête. Vous allez vous faire massacrer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en stream plus d'une fois depuis que le jeu est sorti.
Moi, ça me donnait un peu l'impression de se battre en permanence contre les Witch de Left 4 Dead, tu sais, c'est où il faut approcher tout doucement, pas trop faire de bruit, et puis à partir du moment où tu déclenches le truc, c'est fini, quoi.
Et encore, c'était presque facile à côté, parce que là, c'est vraiment pénible. Donc, il y a des monstres qui vont réagir à la lumière ou au son. Donc, si vous bougez ou vous leur mettez votre lampe torche dans la gueule, c'est fini, ils vont pas être contents. Du coup, on se retrouve sur un environnement à la Killing Floor, mais avec une problématique qui pour moi est assez éliminatoire dans ce genre de titre, c'est que les guns sont vraiment pourris, donc le feeling FPS est pour moi très raté, et ça c'est un truc qui pour moi est impossible, enfin voilà, ça ne m'intéresse pas.
Je vais trouver un gros problème de lisibilité aussi, on sait pas trop ce qui se passe quand on se fait charger, tirer dessus, sait pas qui nous tire dessus, comment, enfin ça a l'air assez brouillant.
Vous prenez un monstre dans le dos par exemple, il n'y a pas vraiment de feedback, le jeu vous prévient pas que vous êtes en train de vous faire cartonner dans le dos, et si vous regardez pas votre barre de vie, vous savez même pas que vous êtes en train de crever. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui vont être à travailler. Maintenant, les fans du genre qui étaient vraiment en manque de ce type de shoot coop hyper difficile, parce qu'ils revendiquent ce côté ultra hardcore, je pense qu'ils seront très contents. La problématique, ça va être de corriger ces problèmes de FPS, je parle pas de problèmes d'affichage, je parle vraiment de problèmes de feeling au niveau des guns qui sont pas satisfaisants du tout, et les combats sont vraiment pas fun, quoi, donc c'est un peu dommage. Donc il en reste beaucoup de travail de ce côté-là. En revanche, l'interface, le design, la qualité graphique, ça c'est plutôt réussi. Ouais. Il manque des informations quand on joue, mais les bases sont quand même pas mal. Moi j'aime beaucoup leur interface à base de trucs de nerd. Il faut se connecter sur des terminaux avec des espèces de faux Unix qui sont dessus pour aller chercher les caisses, faire des search, etc. Donc c'est en plus pas mal dans l'ambiance, puisque pour pouvoir avoir le temps de faire ça, il faut que ça soit bien calme autour. Donc vous pouvez pas non plus déclencher un truc, c'est pas comme dans Apex, on va nous offrir une caisse et choper une armure en glissade et en faisant des doigts d'honneur au mec autour, c'est juste pas possible. Donc on est vraiment sur un gameplay lent et où il faut vraiment communiquer avec tous ses potes pour pouvoir finir un niveau. Donc voilà, c'est sorti, ça coûte pas très cher, donc je crois que c'est autour de 30 balles, donc si vous voulez tester, ça va pas non plus vous ruiner tout de suite, mais à mon avis, vous pouvez les investir dans des choses un peu plus terminées.
Et on va terminer cette section gaming avec des news du côté du mobile, avec un nouveau titre.
Ouais, alors ça, c'est vraiment pour rigoler. Hein. Black Desert Online, le titre qui était sorti il y a longtemps déjà sur PC, est arrivé sur mobile. Et là, ça m'a fait rire, je voulais vous en parler parce que j'avais complètement oublié que je m'étais inscrit en fait pour avoir du loot sur un free-to-play à la sortie et savoir quand ça allait sortir. Et ils m'ont même pas envoyé de mail, en fait, finalement. C'est directement sur un autre site que j'ai vu la news arriver. Black Desert Online, c'est un vrai MMO a priori, mais sur mobile. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça reste Black Desert Online, même si c'est la version mobile. Donc c'est du full free to play, ce qui veut dire quand même pas mal pay to win chez nos amis de ce MMO. Et j'avoue que là, il y a un autre truc qui m'a un peu refroidi, c'est que je crois que j'ai jamais vu autant de menus et de trucs popés dans tous les sens sur un écran de téléphone.
L'enfer.
Parce qu'en fait, ils ont essayé d'adapter leur interface, mais leur interface sur PC, c'est déjà un sacré merdier. Il y a des trucs dans tous les sens. Là, sur mobile, je vous conseille de jouer sur tablette. En revanche, techniquement, c'est hyper joli. On est vraiment sur un MMO axé combat, arcade, plutôt bien adapté au mobile. Bon, ils ont pris un système classique avec le joystick virtuel et puis un nombre de pouvoirs assez limité que vous allez pouvoir déclencher avec votre pouce droit. Mais je vous conseille vraiment de jouer sur une tablette, sinon ça va être très très compliqué. L'autre truc qui m'a surpris, c'est qu'on était sur une version française, entièrement traduite. Ils ont vraiment fait le taf. Je confirme qu'ils sont à la recherche de baleines de toutes les de tous les pays. Donc les baleines, c'est les gens qui lâchent plein de thunes dans les jeux gratuits, ouais. si jamais vous ne connaissez pas le terme. Et puis le dernier truc qui est toujours aussi pénible, c'est qu'il faut trouver un nom de famille pour vos personnages, et trouver un nom de famille sur un free-to-play qui est déjà en distribution partout, même sur les serveurs que européens, c'est une galère. Sans nom, vous allez en taper un paquet avant que le jeu vous dise « Oui, c'est bon, celui-là, tu peux le prendre !» Je supporte pas ça, oui, parce que tous vos persos sont censés être de la même famille, c'est un bordel. Mais voilà, donc je voulais vous prévenir, c'était dispo. Si vous vous emmerdez dans les transports en commun, humour. Eh bien, écoutez, vous savez quoi faire pour vous occuper. Voilà. Mais ça marche moins bien quand on est en train de marcher.
C'est ça. Ou qu'on est coincé dans un piquet de grève.
Voilà. Je sais pas comment ça se passe. Bref, en ce moment, c'est peut-être compliqué de parler transport en commun, donc je vais arrêter.
C'est ça, ouais.
En revanche, dernière précision, quand vous avez installé le jeu, vous allez le lancer. Là, le jeu vous prévient qu'il y a plus de 2 Go à télécharger. Donc, le faites pas loin de votre Wi-Fi, sinon vous allez être vraiment dégoûté si vous voulez vraiment y jouer. Voilà, c'est tout.
Allez, on passe du côté des apps, et je voulais, la semaine dernière, on a parlé de la nouvelle version de Reaper, on va parler d'un autre DAW, Digital Audio Workstation, qui continue de se mettre à jour aussi peinard, avec pas mal de nouveautés à chaque nouvelle itération. C'est Fruity Loops, enfin ex-Fruity Loops, qui s'appelle maintenant FL Studio, qui est passé donc à la version 20.6, et qui rajoute encore une fois gratuitement, pour ceux qui ont déjà payé leur licence, plein de trucs assez sympas. Alors je vous ai fait une petite news qui recense un peu tout ça, il y a des vidéos qui vous montrent un peu toutes les nouveautés. Alors il y a la vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps, qui vous explique tout en une minute, et puis une vidéo un peu plus complète qui fait un peu le détail de toutes ces nouveautés. En gros, bah, il y a des nouveaux effets. Il y a un effet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Destructor, qui est un multi-effet qui a inspiré, en fait, des pédales d'effet pour guitare. Donc, tu peux placer plusieurs pédales en parallèle, si tu veux, avec des effets différents dessus. T'as un Euclidean Rhythm Generator, qui te permet donc de générer automatiquement des rythmiques avancées, des rythmiques un peu complexes. T'as un support du contrôle de voltage. Donc, ça, c'est pour t'interfacer avec tes instruments analogiques, en fait, pour contrôler certains paramètres de tes instruments analogiques. Il y a une nouvelle capture MIDI qui est bien plus avancé que la version de la version précédente. Et puis t'as le New Time, qui est un nouveau plugin de time stretching. On en avait déjà parlé aussi du côté de chez Reaper. Visiblement tout le monde s'y met, qui est particulièrement puissant. Donc il te permet de, bah voilà, si t'as un rythme qui est à 120 BPM, tu décides de passer ton morceau à 125 BPM, bah, tes loops vont s'adapter et tu peux les calibrer parfaitement pour que la caisse claire tombe au bon endroit, que tes sons soient bien alignés. C'est particulièrement intéressant si tu fais par exemple des prises acoustiques avec une guitare, pour être sûr que la rythmique de ta guitare colle bien avec la rythmique de ton morceau. Bref, il y a plein de petites nouveautés comme ça, des améliorations, des corrections de bugs bien évidemment, et tout ça est gratuit si vous avez déjà une licence, donc FL Studio. Je vous ai fait un petit papier cette semaine, donc comme je le disais, qui référence tout ça, et puis sinon je vous invite à aller lire l'annonce officielle sur le site d'ImageLine, FL Studio 20.6, donc la nouvelle version de ce DAW qui avance bien en fait. Sauf que moi j'utilise pas beaucoup, mais je continue de le suivre et il est toujours installé sur ma machine parce qu'il a une approche qui est assez originale et qui est assez intéressante. Donc si vous n'avez pas trouvé votre bonheur avec les classiques Reaper ou Live d'Ableton, vous pouvez aller jeter un œil sur FL Studio, ce sera peut-être votre cam.
Ouais, et en plus on connaît une star mondiale des internets qui utilise ce produit depuis hyper longtemps.
C'est vrai ?
Mais Ronald Jenkins.
Bon, c'est vrai, exact.
Bonjour YouTube. Hello YouTube. Il est fabuleux, et faites une recherche sur son nom, sur Cavezone, pas Geekzone, attends, je dis bien Cavezone, on en avait parlé, ça fait des années qu'il est là, qu'il fait de la musique, et ses albums sont excellents, et il produit tout avec cet outil-là.
Allez, on passe du côté de la tech. On a beaucoup de choses, enfin toi surtout en fait, à nous raconter cette semaine.
Il faut que je te parle, Faskil.
On va commencer par les choses où il faut que je me bouche les oreilles pour pas craquer, c'est les claviers mécaniques.
C'est ça, du clavier mécanique avec l'annonce du HHKB hybride. Alors le Happy Hacking Keyboard, c'est un truc dont je dois vous parler sur Geekzone depuis très longtemps, car j'ai fait un dossier en 2000, avant Jésus-Christ, dans un magazine qui est mort depuis, c'est pour vous dire, bon, il a pas tenu très longtemps certes, mais quand même, où j'expliquais toute la genèse de ce clavier, d'où il vient, pourquoi, dans quel état il est. Ça faisait 13 ans qu'on attendait une update de ce clavier. Et elle a enfin été annoncée cette semaine par PFU Limited, qui est une filiale de Fujitsu, tout bêtement, qui s'occupe surtout du marché japonais. Ils n'ont jamais vraiment cherché à l'exporter. Ils ont commencé à ouvrir une filiale aux États-Unis où ils vendent environ 1000-1200 claviers par trimestre. Je crois. Enfin, c'est vraiment très peu. Il y a une présentation dans la news que je vous ai linkée sur Geekzone que j'ai fait cette semaine. Il y a une petite vidéo de présentation. Enfin, une petite vidéo. Il y a une grosse vidéo du stream de présentation où il y a un moment on voit des slides passer avec les chiffres américains. Bon, je confirme que on n'est pas sur du clavier Logitech. Hein. Les mecs en vendent pas des palettes. Mais ils savent à qui ils les vendent. Ils les vendent à des mecs qui passent leur journée devant leur écran et qui cherchent le top du top en termes de clavier. C'est pour ça que je dis que c'est une Rolls. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un clavier qui est rigolo et qui a des avantages et qui les gens quand ils voient la photo ils font mais pourquoi je vais payer plus de 200€ pour ce truc, je ne comprends pas. Alors effectivement, je vais vous calmer tout de suite, le modèle Bluetooth, le nouveau modèle qui est USB-C Bluetooth et qui est avec des touches avec des petites mousses etc pour qu'il soit bien silencieux quand vous tapez dessus et que personne ne veuille votre mort dans l'open space, il coûte 265€. Petit silence dans la salle. mais alors oui, alors j'ai envie de vous dire, pour des gens qui sont toute la journée, qui tapent toute la journée, eh bien, moi j'en ai un, enfin pas celui-là, précisément, mais le modèle d'avant qui n'était pas Bluetooth. C'est juste le meilleur achat que j'ai fait de ma vie. Mais c'est, je comprends que les gens soient en mode, mais je comprends pas entre le clavier Dell à 10 balles et celui-là, est-ce que je vais taper mieux et plus vite? Alors non. Enfin, si vous n'êtes pas entraîné et que vous n'avez pas l'habitude, non. Alors, celui-là, il a des nouveautés intéressantes par rapport à son grand frère, qui est qu'on peut reprogrammer le positionnement des touches pour avoir le layout qu'on veut, etc. On peut piloter donc 4 appareils en même temps en Bluetooth. Et ils ont aussi pensé à sortir des modèles qui sont pas forcément aussi classe, donc pas Silent Set, par exemple. Donc là, c'est que 228€. Et il y en a un autre qui est que USB-C sans Bluetooth. Et lui, c'est le HHKB classique et il est à 190€. Donc évidemment, l'investissement sur un HKB hybride type S, il est solide. Mais voilà, je voulais pas passer tout le podcast à vous expliquer pourquoi c'est une petite perle. Je voulais juste que vous forcez, vous intéressez à aller lire le papier. Évidemment, le truc le plus important, c'est la qualité du switch, en fait, la qualité de la touche. Pourquoi c'est aussi agréable de taper sur ce clavier et pourquoi on peut taper des heures sans se bousiller les mains.
C'est quoi? C'est du Topré, là, c'est ça?
Ouais, c'est du Topré. Et Topré, donc, c'est une autre boîte japonaise qui s'appelle Topré Corporation, tout bêtement. Et qui fait toute une autre gamme de claviers directement eux en interne qui s'appelle les Real Force. Et du coup, si tu veux du Topré, bah t'as pas le choix. En fait, c'est soit tu prends du Real Force, soit tu prends du HHKB. Il y a une marque coréenne aussi qui s'y est mis. Et il y a quelques copies/license chez quelques petits trucs chinois. En fait, on appelle ça des claviers capacitifs. Le principe est hyper con. Hein. C'est un dôme en caoutchouc avec un espèce de ressort en dessous. Et quand on appuie, en fait, le ressort va faire contact avec le circuit qui est en dessous. Ce qui fait que c'est pas du tout les mêmes sensations qu'un switch mécanique classique avec ressort, la tige, etc. On n'est pas du tout sur le même truc. Soit on aime, soit on s'en fout. Mais quand on aime, bah, généralement, c'est la mort de tous les autres produits. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de claviers, intro, on est d'accord. et c'est, voilà, mes setups de base, c'est que du Topré. Voilà. Donc, je ferai un dossier, j'ai promis, ça y est, j'ai promis d'ailleurs sur mon setup, sur la vie de mon setup.
Il y a des traces maintenant,
les voilà, il y a des traces.
Plus reculer.
Exactement, j'ai promis qu'en 2020, je ferai ce dossier, et d'une part sur les claviers mécaniques complets, et d'autre part sur l'adaptation du fameux dossier sur le HHKB, que j'avais fait de manière un peu ironique pour le magazine à l'époque. Donc voilà, il faut que je l'adapte et il faut que je vous sorte ça. Donc, je commencerai par ça et on fera un petit truc sur le méca derrière. Voilà, vous savez tout et je vous conseille d'aller voir si vous avez un pote de passage au Japon qui peut peut-être vous dépanner, et puisqu'en plus ça prend pas beaucoup de place dans la valise, la boîte est toute petite. En revanche, on attend des news de la filiale américaine qui doit annoncer la distribution du produit, mais pour l'instant on n'a pas les infos. En revanche, sur Twitter très clairement ils ont répondu à des gens, donc il va se passer quelque chose. En revanche, en Europe
oui.
Mystère et boule de gomme, on vous tiendra au courant, évidemment.
Et on continue dans la tech avec des news de nos amis d'AMD.
Ah, qui sont tellement en forme en ce moment, ça me fait tellement plaisir. Eh oui, AMD qui annonce sa roadmap pour l'avenir, parce que là, ils sont déjà en avance sur plein de gens. Donc, on se disait, bon, là, ce qui reste aux 7 nanomètres, par exemple, tu vois, pour la finesse de gravure de leur CPU, qui a un impact hyper important sur la puissance, sur la chaleur dissipée, donc sur la vitesse que tu peux atteindre, etc. Donc, il y avait plein d'informations importantes à révéler. Et là, ils annoncent carrément le 5 nanomètres pour 2021. C'est après-demain, hein, ça va aller vite. 5 nanomètres, on est à 7, donc c'est déjà pas mal. 3 pour 2023, les Ryzen actuels, donc je répète, sont en 7. Donc tout ça, c'est grâce à TSMC qui s'occupe de faire les puces pour AMD depuis bien longtemps. Là, le truc qui me faisait marrer dans l'histoire, c'est que pendant ce temps-là, il y a Intel qui vient d'annoncer qu'il revenait aux 22 nanomètres. et ça fait pas très sérieux, mais ils exhument en fait un truc qui s'appelle le Pentium. Techniquement, on l'appelle le Pentium G3420, qui est en fait un vieux Pentium de l'architecture Aswell qui a 6 ans maintenant, et qui a priori vient renforcer le line-up tout bêtement, parce que Intel n'arrive déjà pas à livrer les CPU en 14 nanomètres actuellement. Il y a des listes d'attente de ouf et ils sont en rupture de stock partout tout le temps. Alors c'est une bonne nouvelle parce que d'une part ils arrivent à les vendre, mais ils arrivent surtout pas à les fabriquer en quantité comme ils le voudraient. Donc ils sont un petit peu dans le caca, comme on dit entre nous. Et ils ont annoncé eux aussi parallèlement à ce truc-là, parce qu'on pourrait se moquer en disant ah bah voilà 22 nanomètres, ah bah bravo. Non, ils essayent quand même de sortir de ce pétrin et ils ont annoncé une roadmap hyper ambitieuse. Eux aussi, mais bon, comment dirais-je, les analystes analysant ne sont pas persuadés que ça soit ultra lucide. Enfin, tu peux annoncer ce que tu veux. C'est comme en politique, hein. Tu peux dire ce que tu veux, et puis après, quand la date butoir arrive, tu fais genre oui, mais voyez-vous, on n'avait pas exactement prévu ça. Donc, je vous la fais quand même, comme ça vous serez au courant. Eux aussi ont annoncé vouloir faire du très très fin, très très vite. On aimerait bien qu'ils gèrent déjà 14 nanomètres, donc eux, ils ont annoncé du 10 en 2019. Oui, bon, très bien, mais si c'est pour faire deux processeurs, ça sert pas à grand chose. En 2021, ils annoncent être à 7, donc bon, ils sont à la bourre, mais c'est pour, ils rattrapent un peu leur retard. Et normalement, ils vont passer à encore plus fin en 2023, 2025, 2027, 2029. Ils se sont mis un truc où tous les deux ans, en fait, ils vont augmenter leur finesse de gravure pour pouvoir rattraper leur retard pour finir en 2029 à 1,4 nanomètres. Ça fait pas beaucoup, hein. Je crois que c'est 3 microns. Enfin, les électrons pour se balader dans les circuits, là, ils ont vraiment plus beaucoup de place. Hein. Il faut pas qu'ils se bousculent, sinon c'est fini, ils se mangent une porte. Du coup, c'est très bien sur le papier, ça fait rêver. Mais fondamentalement, voilà, on attend de voir ce qu'ils vont vraiment réussir à sortir. Et actuellement, les gens sont les analystes haut de gamme de l'électronique sont en train de se dire bon, c'est beau ce qu'ils ont annoncé, mais maintenant faut voir s'ils arrivent à le faire. Alors ils vont peut-être réussir, ou en tout cas ils misent gros avec un nouvel arrivant chez eux qui s'appelle le docteur Gary Patton. J'aime bien, ça fait très général, tu vois. Qui est l'ancien CTO de Global Foundry, qui vient d'être embauché chez Intel. Bon, c'est pas par hasard, hein, c'est un pro de la fabrication de ces trucs là il y a clairement un truc qui ne fonctionne pas chez Intel en interne, il faut qu'ils arrivent à régler ce souci. Et donc cet homme, à mon avis, a été débauché à gros frais pour aller s'occuper de tout ça. Je lui souhaite bon courage.
Et on passe du côté des mobiles avec encore des obstacles pour la 5G.
Alors, c'est un obstacle rigolo parce qu'en fait, la 5G, elle va bien. C'est qu'on vient de s'apercevoir, enfin, nous non, hein, parce qu'on sait, mais à grande échelle, on sait, quand je dis on sait à notre petit niveau, mais à grande échelle, il y a un petit souci sur le chemin de la 5G, c'est l'argent. Et pas l'argent pour les mecs qui vont mettre les antennes, etc. Hein, l'argent pour vous, pour acheter les téléphones qui vont bien, puisqu'on vient de s'apercevoir, en tout cas aux États-Unis, qui est réputé pour être un marché relativement riche, avec des grosses parts de marché Apple, etc. NPD annonce que 10% des Ricains achètent des tels à plus de $1000, donc ça fait que 10% pour les téléphones haut de gamme, tu vois, que ce soit c'est Samsung, Apple, whatever. Et le problème, c'est que c'est exactement le segment qui va être visé par la 5G au départ, en tout cas. Donc ça va être un souci, puisque globalement, je crois que surtout en France, on est quand même assez content qu'on trouve des haut de gamme, enfin, surtout en France, en Europe en général, on est quand même assez clients des téléphones Android de bonne qualité qui sont entre 200 et 400, 500 balles. Mmh. Il faut quand même monter en pouvoir d'achat pour pouvoir s'offrir certains téléphones. Alors, je vais pas revenir sur le débat de c'est pas qu'un téléphone, c'est un ordinateur, c'est un appareil photo, c'est donc voilà, on investit dans l'usage qu'on va en avoir, mais malheureusement, on investit aussi avec les moyens qu'on a, même si on a envie de se payer un super appareil photo, des fois on finit avec un point and click et aujourd'hui, on finit avec un téléphone Android avec un appareil photo un peu médiocre. Parce qu'on n'avait pas le budget pour plus. Donc voilà, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Et ça risque de poser un problème pour la 5G, puisque tous les téléphones annoncés pour la 5G, en tout cas sur les premières années, sont des téléphones relativement haut de gamme. Et ça risque d'être problématique. L'autre problème, je te coupe, comme ça tu n'as pas besoin de faire la transition.
Bon, écoute, très bien.
C'est que l'annonce couplée aujourd'hui, enfin qui s'est faite cette semaine du Snapdragon 865 chez Qualcomm, pose une autre problématique. C'est que le Snapdragon 865, ça va être le nouveau processeur pour les hauts de gamme de l'année prochaine, qui vont arriver à mon avis dès le mois, en tout cas seront annoncés dès le mois de février, normalement vont équiper quasiment tous les téléphones Android, et il annonce des performances plutôt sympas. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas de modem à l'intérieur, à cause ou de la 5G, je ne pense pas. C'est juste que Qualcomm a un peu la pression pour égaler le niveau de puissance de ce que fait Apple dans ses iPhones actuellement. Et donc, ils ont viré le modem en se disant, comme ça, nos clients, ils vont pouvoir mettre un modem 4G ou 5G en fonction du modèle. Tu vois, donc c'est
d'accord.
Je veux dire, c'est plutôt malin. Il y a un petit problème à ce raisonnement. C'est que du coup, ça prend de la place et ça consomme. Alors, il faut savoir que tous les modèles de téléphones 5G qui sont sortis actuellement sont pas des foudres de guerre côté autonomie batterie, parce que tout bêtement, c'est ça s'use pas mal d'avoir des puces séparées sur une carte mère. C'est, quand tout est rassemblé dans le même processeur, enfin dans le même système on chip comme on appelle ça, c'est beaucoup plus efficace, ça consomme moins, en plus généralement ça facilite le transit des informations, etc. Donc c'était surprenant, et il y a pas mal de mecs qui sont un petit peu réservés et qui attendent de voir les téléphones qui vont sortir avec ce chip, mais qui trouvent que c'est un pas en arrière de la part de Qualcomm de pas proposer tout bêtement deux versions à la limite du 865. S'ils avaient pu le faire, je pense que c'est ce qu'ils auraient fait. Tu proposes une version 4G, une version 5G du même CPU, du même système on chip, et puis les mecs, en fonction du marché qu'ils veulent viser et du prix qu'ils veulent mettre, ils peuvent choisir tel ou tel modèle pour leur produit. Mais apparemment, pour l'instant, ça sera que du séparé. Il va falloir attendre 2021, à mon avis, pour voir de l'intégrer. Donc reste à voir ce que va faire Apple, parce qu'il y a plus grand monde qui fait de l'intégrer, etc., à haut level à ce point-là. Donc il n'y a plus vraiment de concurrence. J'ai l'impression qu'ils en ont aussi un petit peu profité.
Et c'est la fin de ce 113e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. On va aller se reposer ce week-end, parce qu'on est tous les deux un petit peu fatigués, là.
Non, moi, je bosse ce week-end.
Je bosse ce week-end.
Non, mais c'est ma vie, c'est ça, en ce moment, tu vois. C'est la vie que j'ai choisie. En fait, j'ai pas choisi, elle m'a choisi pour moi. Donc voilà, donc courage à tous ceux qui bossent ce week-end. Je suis avec vous, les gars.
Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.